Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du jour où je vais vous parler des titres suivants. Nous commencerons avec le cri d'alarme de l'essayiste Blanche Strub sur le non-désir d'enfant. Selon elle, sans enfant, toute société perd le goût de la vie, de l'espoir et de l'avenir. Il est urgent de s'en inquiéter. Je vous lirai son interview parue dans Aletheia. Et pour illustrer son interview, je vous lirai également une liste d'associations parue dans Famille Chrétienne numéro 2413. Je vous parlerai ensuite de la résilience. Comment faire face au coup du sort ou comment pouvons-nous tenir quand le sort s'acharne dans nos vies? Je vous lirai l'interview de Pierre Delbé dans Famille Chrétienne numéro 2412. La vie peut être belle même quand nous n'avons pas de bras. Ce sera le portrait que je vous présenterai, celui de Adriana Macias et dont le témoignage est en ligne aussi sur Aletheia. En culture chrétienne, le livre de Jamel Ghesmi, paru aux éditions De Clé de Brouwer, intitulé « De mes malheurs a surgi un trésor ». Et enfin, je vous parlerai du projet cinématographique de Steven et Sabrina Gunnell sur le Sacré-Cœur. Je vous en dirai plus à la fin de cette revue de presse. Nous commençons cette revue de presse avec un sujet très inquiétant où nous devons être aussi très très vigilants, à savoir l'explosion du non-désir d'enfant. Je vais vous lire l'interview que Blanche Strub a donnée à Aletheia sur ce sujet. Cette semaine, plusieurs images m'ont frappée. D'abord, la une du journal Society. Un enfant hurlant, rouge de colère et de larmes, flanqué de cette question. Climat, inflation, enfer de la rentrée. Faut-il être fou pour faire des enfants ? Ensuite, c'est la couverture d'un livre qui vient de paraître, intitulé « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» Enfin, ce sont toutes ces images de bébés, de pouponnières et de femmes enceintes qui ont orné les articles consacrés aux derniers chiffres de l'INSEE sur la natalité et qui confirment le « baby crack » français. Ainsi, la natalité confirme sa chute. Elle pourrait même être en record en 2023. Nous le savons tous et beaucoup d'articles nous ont déjà alertés sur ce sujet. Elle a baissé de 7% au cours du premier semestre 2023 par rapport à 2022. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, depuis le milieu des années 2010, le gouvernement a décidé de très forts rabotages dans la politique familiale. Ce qui freine le plus les couples, c'est qu'ils ne se sentent plus accompagnés dans leur souhait d'avoir des enfants. On déplore donc un taux de fécondité désormais autour de 1,8. Alors même que des enquêtes montrent que le désir d'enfant serait supérieur à 2,3 enfants par femme. D'autres raisons, et vous les connaissez tous, bien sûr s'y ajoutent. Le pouvoir d'achat, les inquiétudes face à l'avenir, les difficultés liées aux conditions de travail, les modes de garde, mais également l'imprégnation de plus en plus visible des esprits par la culture du refus affirmé d'avoir des enfants. L'autre fréquent motif serait lié aux revendications, aux préoccupations écologiques. C'est le refus de mettre au monde un pollueur de plus. On les appelle les « jink ». Voilà, les « no kids ». De plus en plus, des hommes et des femmes, parfois jeunes et célibataires, se font volontairement stériliser, en geste éco-responsable ultime. La ligature des trompes pour les femmes, vasectomie pour les hommes, ces pratiques sont légales en France pour toute personne majeure, qu'elle ait déjà ou pas des enfants. Alors Blanche Strub s'alarme sur aussi le phénomène dit de regret maternel et qui se répand depuis quelques années via les podcasts et les réseaux sociaux. Citons l'exemple de Colline à propos de son fils Gaston, tiré du livre témoignage « Mal de mère ». Elle dit « Quand je le vois, je me dis que je pourrais très bien me passer de lui. et retrouver ma vie d'avant, celle où j'avais des amants. Le temps de faire ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. Ces mots, nous dit Blanche Strub, sont effrayants, au-delà de cet exemple, mais par la portée qu'ils peuvent avoir dans la société. Un enfant peut-il se construire paisiblement entouré de ses pensées, même si elles ne sont pas objectivement verbalisées devant ou sur lui ? N'est-on pas tout simplement là au bout d'une culture de l'individualisme, du fluctuant ressenti tout-puissant, sur l'autre face de la médaille du culte du droit à l'enfant, de l'enfant-projet, de la grossesse qui ne peut être que désirée et plus inattendue ? Ces nouvelles formes culturelles autour du non-désir d'enfant sont à l'image d'une société de l'enfant-projet. Alors, il ne s'agit pas de contester des décisions individuelles, celles de ne pas avoir d'enfant, car la fécondité ne se limite pas à la paternité ou à la maternité, et avoir des enfants n'est pas une condition indispensable du bonheur ni pour se réaliser. Il peut même s'agir d'une décision issue d'un discernement éclairé et vraiment libre. Mais plutôt de s'inquiéter de cette mentalité qui flirte plus avec la désespérance et le néant qu'avec la confiance. Face à cela, que peut-on proposer ? Rappeler que les enfants et les générations qui se renouvellent engendrent espoir et vitalité. Qu'il faut soutenir les couples et les jeunes parents. S'encourager aussi, quand on a des enfants, à ne pas seulement s'en plaindre, mais à nourrir et transmettre la joie de son foyer, à rayonner, même si donner la vie, c'est aussi donner beaucoup de sa vie. Dans mon livre « Éclat de vie », paru aux éditions de l'Emmanuel en 2019, j'ai écrit des paroles d'encouragement dans une courte lettre à la jeune femme que j'étais et qui appréhendait de devenir mère. Voici ces mots. « N'aie pas peur. Par ses yeux, tu regarderas le monde comme tu ne l'as jamais regardé. Pour lui, tu penseras l'avenir comme tu ne l'as jamais pensé. Avec lui, tu aimeras la vie comme tu ne l'as jamais aimée. Ne t'en fais pas. Quand il sera là, il sera ta force, ta boussole et le vent dans tes voiles. » Alors pour terminer, vraiment c'est une vraie question. Pour qui et par qui une société peut-elle trouver l'énergie et l'envie de se battre pour le bien, le bon, le beau, si ce n'est pas d'abord pour tous ceux à qui nous passerons le flambeau? C'était l'interview de Blanche Strub sur l'explosion du non-désir d'enfant dans notre société actuelle. Et pour toutes les mamans qui sont en détresse et dont la vie de la plupart des enfants peuvent être compromises, je vais vous faire une liste d'associations qui viennent en renfort aux femmes enceintes en difficulté. Car oui, notre pays est capable de proposer des solutions pour les femmes enceintes. La liste que je vais vous lire est dans le Famille chrétienne numéro 2413. La première association. Maison d'accueil maternelle Magnificat. Cette association fête ses 50 ans cette année. Elle accueille 16 mères réparties dans deux maisons, une à Ligueuil, dans l'Indre-et-Loire, et à Laval, en Mayenne. Les femmes enceintes de toute la France, majeures, en situation régulière, vivent leur grossesse dans un esprit communautaire jusqu'aux 9 mois de leur bébé. Elles sont accompagnées par une responsable de maison et deux accompagnatrices sociales diplômées. Il est aussi possible de demander un accouchement anonyme en vue d'une adoption. Donc, la première association, la Maison Magnificat. La deuxième, qui va peut-être un peu plus vous parler, Marthe et Marie. L'association accueille des femmes enceintes ou avec leur bébé de moins d'un an. Sa particularité est de proposer un grand appartement ou une maison avec entre 3 et 8 chambres, dans lequel les mères vivent en colocation solidaire avec des étudiantes ou des jeunes professionnels. Depuis 2010, 8 villes proposent ces colocations. Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Rouen, Lille, Marseille et Courbevoie. Donc la deuxième association, Marthe et Marie. La troisième, et vous aviez eu une émission sur nos ondes à ce sujet, la maison de Tom Pousse. Elle met à disposition deux maisons en Seine-et-Marne. La première peut accueillir 12 futures mères et l'autre 10. accompagnées de leur bébé. Elles peuvent rester entre 3 et 6 mois dans des chambres individuelles ou partagées. Depuis 1997, l'accueil est inconditionnel, y compris pour des mineurs et des femmes sans titre de séjour. Elles partagent leur quotidien, des ateliers et des repas communs. La maison de Tompous. Ensuite, les maisons Bethléem. À Toulon, un immeuble diocésain accueille 6 femmes enceintes ou avec leur bébé dans 6 studios individuels, 6 mois renouvelables. Elles doivent être majeures et autonomes financièrement. Une pièce au rez-de-chaussée permet de proposer des temps de convivialité et un accompagnement assuré principalement par des bénévoles. Donc, maison Bethléem à Toulon. Ensuite, la maison de Louise. Ce lieu de vie a été créé en 2012 et situé à Tassin, donc près de Lyon, qui est un appartement pouvant accueillir 4 femmes enceintes majeures. En rupture affective, familiale ou professionnelle, elles sont accueillies et aidées par une coordinatrice et des bénévoles pour préparer la naissance de leur bébé et les aider dans leur démarche sociale. Si chacune a sa chambre et peut vivre en toute intimité, la vie communautaire est organisée comme celle d'une famille jusqu'aux 5 mois du bébé. Donc la maison de Louise. Et il faut savoir qu'il y en a aussi plein d'autres. Notez-les bien. De toute façon, vous pourrez les réécouter dans le podcast. Il y a l'Atilma à Vannes, la maison Amado à Carpentras, le foyer Saint-Joseph-Benoît-Labre à Crouy, le Bercail à Issy-les-Moulineaux, la Canopée à Courbevoie, la Maisonnada à Saint-Paul-les-Dax, l'association Résonance à Colmar, l'accueil Samari à Coulommiers, la résidence Cécile et Marianne à Poitiers, la résidence El Paso à Neuilly-sur-Seine, les berceaux de Myriam à Bagnolet et un toit pour elle en Seine-Saint-Denis. Vous pourrez donc retrouver toutes ces associations dans le Famille chrétienne numéro 2413. Nous continuons avec cette fois-ci la résilience. Alors il arrive que des traumatismes permettent d'accéder à un surcroît de vie pourvu qu'on ouvre son cœur. C'est ce que nous dit Pierre Delbé, auteur du livre « Affronter les coups du sort » dans une interview accordée à Famille chrétienne numéro 2412. Certaines personnes parviennent à être résilientes après des épreuves particulièrement destructrices et d'autres n'y arrivent pas. Comment l'expliquer ? Alors Pierre Delbé nous dit « En effet, de nombreux facteurs entrent en jeu. La résilience n'est pas une formule magique. » Et certains ne se remettent pas de certaines épreuves. Je distingue 3 niveaux de résilience. Le fait de survivre, le fait de vivre une existence satisfaisante, même si rien ne sera jamais comme avant, et le fait de vivre une résilience surabondante, c'est-à-dire qui débouche sur une situation meilleure qu'avant. La résilience ne se décide pas, au sens où l'on ne peut pas dire « à partir d'aujourd'hui, je vais être résilient ». Non. La capacité à surmonter l'épreuve dépend d'un facteur involontaire. L'accès à notre propre force vitale, à nos ressources corporelles, physiques ou spirituelles, mais aussi à l'accompagnement, aux rencontres, aux relations sociales. Peut-on apprendre à être résilient ? Pour Sénèque, le gladiateur se décide dans l'arène. Être confronté à une crise majeure, une perte fatale, est une expérience cruciale qui fait apparaître des qualités insoupçonnées et dévoile ce que l'on est vraiment. Sans doute faut-il improviser devant une épreuve intense et imprévue qui nous fait dérailler. Le gladiateur, pour reprendre l'image de Sénèque, s'entraîne. Il est conscient de ses forces et de ses fragilités. On devient plus libre en s'exerçant, en résistant. Lorsque l'on surmonte un obstacle, cela donne du courage. On s'adapte d'autant mieux à une situation nouvelle et difficile que l'on s'y est préparé et que l'on est conscient de ce dont on est probablement capable. Alors dans le chemin de reconstruction, qu'est-ce qui relève de soi et qu'est-ce qui relève de l'autre ? Quand on reçoit un coup physiquement, le corps se contracte et se tend. Il conserve parfois sa rigidité au-delà du choc. En prendre conscience aide à mettre en place un travail sur soi pour se décontracter. De la même façon, lorsque l'on vit un drame, on peut avoir sur soi des sentiments très négatifs et entrer dans la culpabilité. La confiance en soi est la force intime du courage. Or, cette affirmation de soi fait partie de la mise en place d'un processus de défense. S'exprimer sur son épreuve est une façon de se libérer. C'est un soulagement de pouvoir dire « voilà ce que j'ai vécu » à quelqu'un capable de l'entendre, de l'accepter, d'y croire, sans jugement. L'autre me décharge ainsi d'une part de ma souffrance. Il m'aide à prendre conscience de mes défenses inadaptées, comme le déni ou l'esprit magique, pour pouvoir améliorer mes comportements, les relativiser et progresser dans la résilience. Aucune épreuve ne se résout par le mutisme. Sinon, c'est le corps qui encaisse et somatise. Mais l'autre, à qui j'ai recours, ne doit jamais empiéter sur ce qui est de mon sort, sur ma liberté, comme il ne doit pas rester un spectateur impuissant devant ma plainte interminable. Il s'agit d'être dans un échange et d'évaluer le conseil de l'autre à l'aune de sa propre lumière. Le premier conseil que l'on doit écouter, c'est le sien propre. Alors vous faites aussi de l'humour un pilier possible de résilience, mais aussi la mélancolie. C'est-à-dire, l'humour est un pied de nez charmant, un trait créatif typique qui transforme une situation angoissante. Comme la réaction de ce condamné à mort qui refuse une dernière cigarette en rétorquant « j'essaie d'arrêter de fumer ». La mélancolie est une crise existentielle capable de faire souffrir autant qu'une épreuve traumatique. Elle peut être liée à une prédisposition du caractère, une sensibilité qui incite à des excès ou à un vide existentiel et qui pousse donc l'homme dans ses derniers retranchements. Prenez Don Quichotte, qui au long de sa vie, à cause de cet ennui terrible, cette mélancolie, s'invente une chevalerie héroïque. À l'heure de la mort, il comprend sa vanité et son mensonge. La résilience est ici aveu d'une vérité qui rend caduque ses efforts et illumine sa vie d'un jour nouveau. De même, je crois que l'art, le beau, permet de sublimer le traumatisme par une sorte de révélation qui nous rend à nous-mêmes et le transforme en expérience partageable. Dans sa magnifique chanson « L'aigle noir », Barbara fait probablement référence à l'inceste qu'elle a vécu dans l'enfance. L'artiste n'abolit pas cette terrible expérience, mais sa créativité permet, tout en vivant avec ce traumatisme, d'ouvrir une fenêtre sur le beau qui la libère de la suggestion et transforme sa douleur la plus intime en une œuvre d'art bouleversante. Alors voyez-vous aussi un enjeu spirituel à la transformation de la blessure en accomplissement. Pierre Delbé nous dit « Oui, j'aime beaucoup ces paroles de Leonard Cohen. Il y a une fêlure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. » Avec cet éloge de la fragilité, le chanteur canadien ouvre la voie d'une spiritualité de la résilience. Celle-ci appartient à tous, y compris aux plus petits. Sainte Bernadette ou le curé d'Ars n'étaient pas des flèches, mais étaient porteurs de la lumière de Dieu. La faille provoquée par un traumatisme ouvre à la lumière, mais aussi à la relation. L'attitude vis-à-vis de l'épreuve est de croire qu'il n'y a pas forcément une solution, mais qu'il peut y avoir une fécondité. Et pour terminer, quelle différence existe-t-il entre la résilience et le pardon? Le pardon a quelque chose de miraculeux. Que l'horreur d'un traumatisme puisse déboucher sur une telle surabondance est un mystère. La résilience rencontre ici la question spirituelle. Le pardon, on peut en percevoir des signes, mais il demande à être reçu dans la foi. Celle-ci est un don de Dieu qui ouvre le cœur à son salut, même dans la pire des épreuves. Vouloir croire et ne pas fermer son cœur pour laisser agir la grâce est le point d'ancrage dans ce que l'on peut appeler une résilience proprement chrétienne. C'était l'interview de Pierre Delbé, auteur de « Affronter les coups du sort ». Vous pourrez retrouver cette interview dans le Famille chrétienne numéro 2412. Nous allons maintenant à la rencontre de Adriana Macias, une femme mexicaine qui est née sans bras, mais qui a un don pour la joie et qui va nous dire que la vie peut être très, très belle. Le témoignage que je vais vous lire est en ligne sur Aletheia. C'est en 2022, peu de temps après la pandémie du Covid, que les Espagnols découvrent Adriana Macias sur l'écran de leur télévision alors qu'elle participe à l'émission Incroyable Talent. Née sans bras, elle arrive sur le plateau et adresse un message plein d'espoir et de vie tout en réalisant, devant un public ébahi, un tas de gestes du quotidien à l'aide de ses pieds. Avec sa verve enjouée, Adriana invite les milliers de téléspectateurs à avoir confiance en eux-mêmes. Il ne s'agit pas de défier le prochain. Il ne s'agit pas d'être meilleur que le prochain. Il s'agit d'être meilleur que nous-mêmes chaque jour. Elle nous dit « Il s'est passé tellement de choses dans ma vie que je pense que les gens l'ont parfaitement perçu parce que nous avons pu avoir cette connexion et cette merveilleuse empathie. » Dans l'émission, Adriana a écrit un livre où elle raconte son étonnante histoire, à savoir l'acceptation de son handicap, la naissance espérée de sa fille, son métier de conférencière où elle incite les jeunes à avoir confiance en eux. Et ce n'est pas tout. Sur le plateau de télévision, elle n'hésite pas non plus à parler de sa foi en Dieu, très vivante et inhérente à sa personne. Adriana naît au Mexique en 1978. Elle nous dit « Ma mère n'a découvert qu'à ma naissance que j'étais née sans bras. Il faut dire qu'à l'époque, les échographies coûtaient très cher et qu'il n'y avait aucune connaissance sur ce handicap. Personne n'a été capable de dire pourquoi j'étais née ainsi. Il faut être heureux avec ce que l'on a et avec ce que l'on n'a pas. J'ai toujours senti que c'était mon corps d'origine. Je pense que si je devais renaître, ce serait le corps que je choisirais. C'est celui qui m'a permis d'apprendre tant de choses. » Elle ajoute encore « Depuis que je suis bébé, j'ai commencé à faire des choses avec mes pieds, comme tous les bébés. Et mes parents ont vu que, pour moi, mes pieds étaient quelque chose qui me permettait de remplacer ce dont j'avais besoin. En grandissant, ils ont commencé à me donner des responsabilités. Plier les vêtements, les ranger. J'avais des services à rendre, comme tous les membres de la famille. Et c'est là que j'ai découvert que se sentir utile est la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain. Une acceptation de son corps, d'accord, mais qu'en est-il de son âme? Des reproches à adresser à Dieu? Soyons honnêtes et sincères. Nous avons tous interrogé Dieu pour savoir pourquoi il ne nous a pas fait de telle ou telle manière. Quand on est jeune adolescent, on veut que la vie soit plus facile. Et quand j'avais du mal à faire quelque chose, la seule chose que je me demandais était « Pourquoi devrais-je avoir plus de mal à le faire que les autres ?» Mais je n'ai jamais eu de conflit avec Dieu. Mes parents m'ont toujours éduquée et enseignée dans la foi. Et j'ai fini par devenir une femme de grande foi. Dieu est avec moi tous les jours. Je pense à Dieu chaque fois que je vais faire quelque chose. Je pense à Dieu chaque fois que je vis un moment difficile ou douloureux. Je l'invite en tout. Dieu est invité dans ma vie, toujours, à tout moment. Je ne peux pas concevoir ma vie sans la foi. Cette présence au quotidien l'a aidée dans les périodes les plus douloureuses de l'adolescence. Ce qu'Adriana raconte encore avec un naturel désarmant. D'un point de vue sentimental, rien n'a été facile pour la jeune femme, qui a pourtant toujours senti en elle un immense désir de maternité. Les médecins m'ont demandé de faire un test génétique pour connaître l'origine de mon handicap. C'est comme cela que nous avons découvert que mon handicap était congénital et non génétique. Cela signifie que la nature n'avait plus de matière première, qu'elle ne suffisait plus, mais que mes parents n'avaient aucune responsabilité génétique de mon handicap, un doute qu'ils portaient depuis ma naissance. Adriana a néanmoins dû attendre 8 ans avant d'avoir sa fille, après de nombreuses tentatives. J'ai dit à Dieu, « Ce que je veux le plus au monde, c'est être mère. Mais tu as ton plan pour tout le monde. » Adriana raconte également que la Vierge de Meristel s'est fait pousser les bras à force d'aider et de donner tant. Aujourd'hui, Meristel est à l'école primaire et Adriana jongle entre ses multiples activités de maman, de conférencière dans le monde entier, tout en lançant une collection de vêtements et en travaillant un nouvel ouvrage de développement personnel. Pour terminer, elle nous dit « Dieu nous aime tous. Nous sommes ses enfants gâtés. » D'où le titre d'un de mes ouvrages, amoureux de toi. Ce livre est né du fait que nous sommes gâtés par Dieu, car il nous donne et nous accorde souvent ce que nous demandons. Mais il arrive parfois que nous ne soyons pas prêts pour ce qu'il nous a donné. C'était le témoignage d'Adriana Macias, une jeune femme donc née sans bras, mais qui a un don pour la joie et qui nous dit que la vie est belle. Ce témoignage, vous pourrez le retrouver en ligne sur Aletheia. Nous passons maintenant à la culture chrétienne, où je vais d'abord vous présenter le livre de Jamel Ghesmi, paru aux éditions De Clé de Brouwer, intitulé « De mes malheurs a surgi un trésor ». Je m'appelle Jamel. Je suis née en France de parents algériens. En regardant mon parcours si bousculé, où j'ai couru de nombreux dangers et frôlé la mort dès mon enfance, je m'interroge. Pourquoi mon chemin ne s'est-il pas arrêté, alors que plusieurs de mes proches n'ont pas survécu ? À défaut de pouvoir percer le mystère de mon histoire, je peux témoigner aujourd'hui qu'au milieu des tribulations, chaque jour est une promesse. C'est là probablement la raison profonde de ce récit, où se tiennent ensemble la violence et la douceur, la fange et la beauté, l'odieux et le merveilleux, jusqu'au jour où tout a pris sens à mes yeux. Profondément touchée par le petit pauvre qu'est saint François d'Assise, par sa joie et ses combats, je vais cheminer vers son maître, monter et jouer la pièce à travers la France jusque devant Jean-Paul II. Mon chemin n'est pas terminé. Si le cri silencieux de tous ceux qui affrontent la nuit trouve un écho dans mon récit, je veux tout autant me faire l'avocat de la joie. Cette joie profonde qui vient en contrepoint d'une douleur parfois extrême. Je veux dire aujourd'hui, dans mon livre, ma gratitude envers la vie. Parce que la vie est à la fois fragile et remplie de sens. Et être vivant est une grâce inestimable. C'était donc une brève présentation du livre de Jamel Ghesmi, « De mes malheurs a surgi un trésor », un livre paru aux éditions De Clé de Brouwer. Je termine cette revue de presse avec également le projet cinématographique sur le Sacré-Cœur par les réalisateurs Steven et Sabrina Gunnel. Plusieurs thèmes dans le film seront abordés, à savoir l'heure sainte, la réparation, le cœur immaculé de Marie et les miracles eucharistiques. Le film est prévu pour 2025, au terme du jubilé des 350 ans des apparitions à Paray-le-Monial. Vous pouvez déjà avoir des renseignements sur le site des Gunnel, à savoir creafilmmakers.com. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne très rapidement les titres dont il a été question dans cette revue de presse. Nous avons commencé avec le cri d'alarme de Blanche Streub sur le refus d'enfants dans la société d'aujourd'hui. L'interview que je vous ai lue est dans Aletheia. Et je vous ai ensuite lu, pour compléter son interview, une liste d'associations qui vient en aide aux femmes enceintes et à leurs bébés dans Famille chrétienne numéro 2413. Je vous ai ensuite parlé de la résilience avec l'interview de Pierre Delbé dans Famille chrétienne numéro 2412. En portrait aujourd'hui, je vous ai présenté Adriana Macias, une femme pleine de vie, même si elle est née sans bras. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. En culture chrétienne, « De mes malheurs, un surgit un trésor », livre de Jamel Ghesmi, paru aux éditions De Clé de Brouwer. Et enfin, une brève annonce sur le film du Sacré-Cœur, réalisé par Steven et Sabrina Gunnel, qui sortira donc en 2025. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve dans 15 jours.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Maria, c'était la revue de presse avec Claire. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site www.radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.